Les principaux résultats obtenus dans ce livre. Quels sont les principaux résultats auxquels m'ont conduit ces sources historiques inédites? La première conclusion est qu'il faut se méfier de tout déterminisme économique en cette matière. L'histoire de la répartition des richesses est toujours une histoire profondément politique et ne saurait se résumer à des mécanismes purement économiques. En particulier, la réduction des inégalités observées dans les pays développés entre les années 1900-1910 et les années 1950-1960 est avant tout le produit des guerres et des politiques publiques mises en place à la suite de ces chocs. De même, la remontée des inégalités depuis les années 1970-1980 doit beaucoup au retournement politique des dernières décennies, notamment en matière fiscale et financière. L'histoire des inégalités dépend des représentations que se font les acteurs économiques, politiques, sociaux, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, des rapports de force entre ces acteurs et des choix collectifs qui en découlent. Elle est ce qu'en font tous les acteurs concernés. La seconde conclusion, qui constitue le cœur de ce livre, est que la dynamique de la répartition des richesses met en jeu de puissants mécanismes poussant alternativement dans le sens de la convergence et de la divergence, et qu'il n'existe aucun processus naturel et spontané permettant d'éviter que les tendances déstabilisatrices et inégalitaires l'emportent durablement. Commençons par les mécanismes poussant vers la convergence, c'est-à-dire allant dans le sens de la réduction et de la compression des inégalités. La principale force de convergence est le processus de diffusion des connaissances et d'investissement dans les qualifications et la formation. Le jeu de l'offre et de la demande, ainsi que la mobilité du capital et du travail qui en constitue une variante, peuvent également œuvrer en ce sens, mais de façon moins forte et souvent de façon ambiguë et contradictoire. Le processus de diffusion des connaissances et des compétences est le mécanisme central qui permet à la fois la croissance générale de la productivité et la réduction des inégalités à l'intérieur des pays comme au niveau international, comme l'illustre le rattrapage actuel des pays riches par une bonne partie des pays pauvres et émergents, à commencer par la Chine. C'est en adoptant les modes de production et en atteignant les niveaux de qualification des pays riches que les pays moins développés rattrapent leur retard de productivité et font progresser leurs revenus. Ce processus de convergence technologique peut être favorisé par l'ouverture commerciale, mais il s'agit fondamentalement d'un processus de diffusion des connaissances et de partage du savoir, bien public par excellence, et non d'un mécanisme de marché. D'un point de vue strictement théorique, il existe potentiellement d'autres forces allant dans le sens d'une plus grande égalité. On peut par exemple penser que les techniques de production accordent une importance croissante au travail humain et aux compétences au cours de l'histoire, si bien que la part des revenus allant au travail s'élève tendanciellement et que la part allant au capital diminue d'autant, hypothèse que l'on pourrait appeler la montée du capital humain. Autrement dit, la marche en avant vers la rationalité technicienne conduirait mécaniquement au triomphe du capital humain sur le capital financier et immobilier, des cadres méritants sur les actionnaires bedonnants, de la compétence sur la filiation. Par là même, les inégalités deviendraient naturellement plus méritocratiques et moins figées, si ce n'est moins fortes en niveau au fil de l'histoire. La rationalité économique déboucherait mécaniquement sur la rationalité démocratique, en quelque sorte. Une autre croyance optimiste très répandue dans nos sociétés modernes est l'idée selon laquelle l'allongement de la durée de la vie conduirait mécaniquement au remplacement de la guerre des classes par la guerre des âges, forme de conflit qui est somme toute beaucoup moins clivante pour une société puisque chacun est tour à tour jeune et vieux. Autrement dit, l'accumulation et la répartition des patrimoines seraient aujourd'hui dominées non plus par un affrontement implacable entre des dynasties d'héritiers et des dynasties ne possédant que leur travail, mais bien plutôt par une logique d'épargne de cycle de vie. Chacun accumule du patrimoine pour ses vieux jours. Le progrès médical et l'amélioration des conditions de vie auraient ainsi totalement transformé la nature même du capital. Malheureusement, nous verrons que ces deux croyances optimistes, la montée du capital humain et le remplacement de la guerre des classes par la guerre des âges, sont en grande partie des illusions. Plus précisément, ces transformations tout à fait plausibles d'un strict point de vue logique ont partiellement eu lieu, mais dans des proportions beaucoup moins massives que ce que l'on imagine parfois. Il n'est pas sûr que la part du travail dans le revenu national ait progressé de façon véritablement significative sur une très longue période. Le capital, non humain, semble presque aussi indispensable au XXIe siècle qu'il l'était au XVIIIe ou au XIXe siècle, et on ne peut exclure qu'il le devienne encore davantage. De même, aujourd'hui comme hier, les inégalités patrimoniales sont à titre principal des inégalités à l'intérieur de chaque groupe d'âge, et nous verrons que l'héritage n'est pas loin de retrouver en ce début de XXIe siècle l'importance qu'il avait à l'époque du père Goriot. Sur longue période, la force principale poussant véritablement vers l'égalisation des conditions et la diffusion des connaissances et des qualifications. Force de convergence, force de divergence. Or, le fait central est que cette force égalisatrice, si importante soit-elle, notamment pour permettre la convergence entre pays, peut parfois être contrebalancée et dominée par de puissantes forces allant dans le sens contraire, celui de la divergence, c'est-à-dire de l'élargissement et de l'amplification des inégalités. De façon évidente, l'absence d'investissement adéquat dans la formation peut empêcher des groupes sociaux entiers de bénéficier de la croissance, ou même peut les conduire à se faire déclasser par de nouveaux venus, comme le montre parfois le rattrapage international actuellement à l'œuvre. Les ouvriers chinois prennent la place des ouvriers américains et français, et ainsi de suite. Autrement dit, la principale force de convergence, la diffusion des connaissances, n'est qu'en partie naturelle et spontanée. Elle dépend aussi, pour une large part, des politiques suivies en matière d'éducation et d'accès à la formation, et à des qualifications adaptées, et des institutions mises en place dans ce domaine. Dans le cadre de ce livre, nous allons mettre l'accent sur des forces de divergence plus inquiétantes encore, dans la mesure où elles peuvent se produire dans un monde où tous les investissements adéquats en compétences auraient été réalisés, et où toutes les conditions de l'efficacité de l'économie de marché, au sens des économistes, seraient en apparence réunies. Ces forces de divergence sont les suivantes. Il s'agit d'une part du processus de décrochage des plus hautes rémunérations, dont nous allons voir qu'il peut être très massif, même s'il reste à ce jour relativement localisé. Il s'agit d'autre part et surtout d'un ensemble de forces de divergence liées au processus d'accumulation et de concentration des patrimoines dans un monde caractérisé par une croissance faible et un rendement élevé du capital. Ce second processus est potentiellement plus déstabilisant que le premier, et constitue sans doute la principale menace pour la dynamique de la répartition des richesses à très long terme. Entrons immédiatement dans le vif du sujet. Nous avons représenté sur les graphiques grand 1.1 et grand 1.2, que vous pouvez retrouver en ligne, deux évolutions fondamentales que nous allons tenter de comprendre. Le premier graphique représente l'inégalité des revenus aux États-Unis entre 1910 et 2010, et le second, le rapport capital-revenu en Europe entre 1870 et 2010. Leurs deux évolutions illustrent l'importance potentielle de ces deux processus de divergence. Les évolutions indiquées sur ces graphiques ont toutes des formes de courbes en U, c'est-à-dire d'abord décroissantes, puis croissantes, et on pourrait croire qu'elles correspondent à des réalités similaires. Pourtant, il n'en est rien. Ces évolutions renvoient à des phénomènes tout à fait différents, reposant sur des mécanismes économiques, sociaux et politiques bien distincts. En outre, la première évolution concerne avant tout les États-Unis, et la seconde concerne principalement l'Europe et le Japon. Il n'est certes pas exclu que ces deux évolutions et ces deux forces de divergence finissent par se cumuler dans les mêmes pays au cours du XXIe siècle. Et de fait, nous verrons que cela est déjà partiellement le cas, voire au niveau de la planète entière, ce qui pourrait conduire à des niveaux d'inégalité inconnus dans le passé, et surtout à une structure des inégalités radicalement nouvelle. Mais à ce jour, ces deux évolutions saisissantes correspondent pour l'essentiel à deux phénomènes distincts. La première évolution, représentée sur le graphique grand 1.1, indique la trajectoire suivie par la part du décile supérieur de la hiérarchie des revenus dans le revenu national américain au cours de la période 1910-2010. Il s'agit simplement de l'extension des séries historiques établies par Kuznets dans les années 1950. On retrouve de fait la forte compression des inégalités observées par Kuznets entre 1913 et 1948, avec une baisse de près de 15 points de revenu national de la part du décile supérieur, qui atteignait 45-50% du revenu national dans les années 1910-1920, et qui est passé à 30-35% à la fin des années 1940. L'inégalité se stabilise ensuite à ce niveau dans les années 1950-1970. Puis on observe un très rapide mouvement allant en sens inverse depuis les années 1970-1980, à tel point que la part du décile supérieur retrouve dans les années 2000-2010 un niveau de l'ordre de 45-50% du revenu national. L'ampleur du retournement est impressionnante. Il est naturel de se demander jusqu'où peut aller une telle tendance. Nous verrons que cette évolution spectaculaire correspond pour une large part à l'explosion sans précédent des très hauts revenus du travail et qu'elle reflète avant tout un phénomène de sécession des cadres dirigeants des grandes entreprises. Une explication possible est une montée soudaine du niveau de qualification et de productivité de ces super cadres par comparaison à la masse des autres salariés. Une autre explication qui me semble plus plausible et dont nous verrons qu'elle est nettement plus cohérente avec les faits observés, et que ces cadres dirigeants sont dans une large mesure en capacité de fixer leur propre rémunération, parfois sans aucune retenue, et souvent sans relation claire avec leur productivité individuelle, au demeurant très difficile à estimer au sein d'organisations de grande taille. Cette évolution s'observe surtout aux États-Unis, et à un degré moindre au Royaume-Uni, ce qui peut s'expliquer par l'histoire particulière des normes sociales et fiscales qui caractérisent ces deux pays au cours du siècle écoulé. La tendance est à ce jour plus limitée dans les autres pays riches, Japon, Allemagne, France et autres pays d'Europe continentale. Mais la pente pousse dans la même direction. Il serait bien hasardeux d'attendre que ce phénomène prenne partout la même ampleur qu'aux États-Unis avant de s'en préoccuper et de l'analyser aussi complètement que possible, ce qui n'est malheureusement pas si simple, compte tenu des limites des données disponibles. La force de divergence fondamentale. R supérieur à G. La seconde évolution, représentée sur le graphique grand 1.2, renvoie à un mécanisme de divergence qui est d'une certaine façon plus simple et plus transparent, et qui est sans doute plus déterminant encore pour l'évolution à long terme de la répartition des richesses. Le graphique grand 1.2 indique l'évolution au Royaume-Uni, en France et en Allemagne de la valeur totale des patrimoines privés, immobiliers, financiers et professionnels, net de dette, exprimée en années de revenu national, des années 1870 aux années 2010. On notera tout d'abord la très grande prospérité patrimoniale qui caractérise l'Europe de la fin du XIXe siècle et de la Belle Époque. La valeur des patrimoines privés s'établit autour de 6-7 années de revenu national, ce qui est considérable. On constate ensuite une forte chute à la suite des chocs des années 1914-1945. Le rapport capital-revenu tombe à tout juste 2-3 années de revenu national. Puis on observe une hausse continue depuis les années 1950, à tel point que les patrimoines privés semblent en passe de retrouver en ce début de XXIe siècle les sommets observés à la veille de la Première Guerre mondiale. Le rapport capital-revenu se situe dans les années 2000-2010 autour de 5-6 années de revenu national au Royaume-Uni comme en France. Le niveau atteint est plus faible en Allemagne qui, il est vrai, partait de plus bas. La tendance est tout aussi nette. Cette courbe en U de grande ampleur correspond à une transformation absolument centrale sur laquelle nous aurons amplement l'occasion de revenir. Nous verrons en particulier que le retour de rapport élevé entre le stock de capital et le flux de revenu national au cours des dernières décennies s'explique pour une large part par le retour à un régime de croissance relativement lente. Dans des sociétés de croissance faible, les patrimoines issus du passé prennent naturellement une importance disproportionnée, car il suffit d'un faible flux d'épargne nouvelle pour accroître continuellement et substantiellement l'ampleur du stock. Si de surcroît le taux de rendement du capital s'établit fortement et durablement au-delà du taux de croissance, ce qui n'est pas automatique mais est d'autant plus probable que le taux de croissance est faible, alors il existe un risque très fort de divergence caractérisée de la répartition des richesses. Cette inégalité fondamentale que nous noterons R supérieur à G, où R désigne le taux de rendement du capital, c'est-à-dire ce que rapporte en moyenne le capital au cours d'une année, sous forme de profits, dividendes, intérêts, loyers et autres revenus du capital en pourcentage de sa valeur, et où G représente le taux de croissance, c'est-à-dire l'accroissement annuel du revenu et de la production, va jouer un rôle essentiel dans ce livre. D'une certaine façon, elle en résume la logique d'ensemble. Lorsque le taux de rendement du capital dépasse significativement le taux de croissance, et nous verrons que cela a presque toujours été le cas dans l'histoire, tout du moins jusqu'au XIXe siècle, et que cela a de grandes chances de redevenir la norme au XXIe siècle, cela implique mécaniquement que les patrimoines issus du passé se recapitalisent plus vite que le rythme de progression de la production et des revenus. Il suffit donc aux héritiers d'épargner une part limitée des revenus de leur capital pour que ce dernier s'accroisse plus vite que l'économie dans son ensemble. Dans ces conditions, il est presque inévitable que les patrimoines hérités dominent largement les patrimoines constitués au cours d'une vie de travail et que la concentration du capital atteigne des niveaux extrêmement élevés et potentiellement incompatibles avec les valeurs méritocratiques et les principes de justice sociale qui sont au fondement de nos sociétés démocratiques modernes. Cette force de divergence fondamentale peut en outre être renforcée par des mécanismes additionnels. Par exemple, si le taux d'épargne progresse fortement avec le niveau de richesse, et plus encore si le taux de rendement moyen effectivement obtenu est d'autant plus élevé que le capital initial est important, or nous verrons que cela semble être de plus en plus le cas. Le caractère imprévisible et arbitraire des rendements du capital et des formes d'enrichissement qui en découlent constitue également une forme de remise en cause de l'idéal méritocratique. Enfin, tous ces effets peuvent être aggravés par un mécanisme de type ricardien de divergence structurelle des prix immobiliers ou pétroliers. Résumons. Le processus d'accumulation et de répartition des patrimoines contient en lui-même des forces puissantes poussant vers la divergence, ou tout du moins vers un niveau d'inégalité extrêmement élevé. Il existe également des forces de convergence qui peuvent fort bien l'emporter dans certains pays ou à certaines époques, mais les forces de divergence peuvent à tout moment prendre le dessus, comme cela semble être le cas en ce début de XXIe siècle, et comme le laisse présager l'abaissement probable de la croissance démographique et économique dans les décennies à venir. Mes conclusions sont moins apocalyptiques que celles impliquées par le principe d'accumulation infinie et de divergence perpétuelle exprimé par Marx, dont la théorie repose implicitement sur une croissance rigoureusement nulle de la productivité à long terme. Dans le schéma proposé, la divergence n'est pas perpétuelle, et elle n'est qu'un des avenirs possibles, mais elles ne sont pas pour autant très réjouissantes. En particulier, il est important de souligner que l'inégalité fondamentale R supérieure à G, principale force de divergence dans notre schéma explicatif, n'a rien à voir avec une quelconque imperfection de marché, bien au contraire. Plus le marché du capital est parfait, au sens des économistes, plus elle a de chances d'être vérifiée. Il est possible d'imaginer des institutions et des politiques publiques permettant de contrer les effets de cette logique implacable, comme un impôt mondial et progressif sur le capital. Mais leur mise en place pose des problèmes considérables en termes de coordination internationale. Il est malheureusement probable que les réponses apportées seront en pratique beaucoup plus modestes et inefficaces, par exemple, sous la forme de replis nationalistes de diverses natures.